Mes amis, en ce matin du 12 février 1984, je désire me mettre une dernière fois avec vous à l'écoute de Jésus. J'ai ce matin à vous présenter la troisième parabole contenue dans ce merveilleux chapitre 15 de l'Évangile de Luc que le Saint-Esprit a voulu proposer à notre méditation pour cette retraite à Parc-Saint-Dran. C'est la parabole, comme vous le savez, de l'enfant prodigue ou du fils perdu. Et cette parabole a été considérée par plusieurs comme la perle de l'enseignement de Jésus. Je pense que vous connaissez cette parabole par cœur, ou en tout cas qu'au cours de ces heures passées ici, vous avez fait la lecture de la fin de ce chapitre. Est-ce qu'il y en a qui ont pu lire la fin de ce chapitre? Mais nous allons encore le faire en ce moment. Jésus dit encore, verset 11, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un habitant du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva. Encore loin, son père le vit, et il fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau à son doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, et mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Et il appela un de ses serviteurs et demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Et il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. On aimerait simplement s'arrêter ici, fermer les yeux et repasser cette parole dans notre cœur, laissant le Saint-Esprit ouvrir nos yeux, ouvrir nos cœurs, notre intelligence et nous révéler cet amour immense dont nous sommes aimés. Oh, je le sais, nos prédications de ces jours ont pu paraître à certains de vous pure folie. Vous avez même pu penser que nous devions être des vrais capotés, de croire à des choses pareilles. Vous savez, vous n'avez rien trouvé de vous-même. Saint Paul nous dit que la prédication de l'Évangile, ça paraît une folie pour ceux qui sont perdus. Et pour des gens religieux, comme l'étaient les pharisiens, cette prédication est scandaleuse. Voyons donc. Mais voyons donc. Notre religion n'est-elle pas suffisante pour nous sauver? Et nos bonnes œuvres? Et tout ce que nous avons fait dans notre vie? Est-ce que cela ne va pas compter auprès de ce Père des cieux? De ce Père dont vous nous avez même parlé hier soir en nous disant qu'il avait un cœur de mère? Alors, c'est scandaleux de nous dire encore qu'il faut vraiment mettre toute notre confiance dans ce pendu de la croix. Oui, c'est bien malheureux que les hommes aient crucifié Jésus. Mais enfin, il a été victime de sa vocation. Il était venu pour parler aux hommes. Les hommes ne l'ont pas écouté. C'est ce qui arrive à beaucoup. Il n'y a pas que Jésus. Pensez à Gandhi en Inde, mais n'a-t-il pas voulu lui aussi le bien de son peuple? Et comment a-t-il fini? On l'a abattu. Certes, il n'a pas été crucifié, mais enfin, il a été assassiné. Pensez à Martin Luther King. Mais oui, et lui aussi, il a eu à cœur la cause de ses frères, la cause des Noirs. Et comment a-t-il fini? Mais vous n'allez pas nous dire que quand même il faut mettre notre confiance en Gandhi ou notre confiance en Martin Luther King pour être sauvé. Et pourtant, oui, nous vous disons encore une fois, pour être sauvé, il faut mettre toute notre confiance dans ce crucifié du calvaire, mais qui n'est pas seulement le crucifié de Golgotha, qui est le ressuscité du matin de Pâques, le vivant, éternellement vivant, qui a triomphé de la puissance de la mort et du tombeau, et qui s'est assis à la droite de Dieu, où il intercède pour nous auprès du Père, et qui bientôt va revenir. Mes amis, je vous le demande, est-ce que cette certitude s'est emparée de vos cœurs, que bientôt, bientôt, très bientôt, Jésus lui-même va revenir. Il revient. Sommes-nous prêts pour le voir apparaître sur les nuées du ciel, pour nous enlever enfin de la présence du péché, de ce monde dans lequel nous sommes appelés encore à vivre. Oui, sauvés de la condamnation, sauvés du jugement, puisque Jésus, nous le croyons, l'a porté à la croix. Sauvés aussi de la puissance du péché, puisqu'il n'est pas nécessaire que nous retombions toujours dans les mêmes fautes. Nous pouvons, comme nous avons essayé de vous le montrer hier soir, nous pouvons, dans la foi, nous considérer, nous aussi, comme morts au péché. Morts dans la mort de Jésus, comme le dit saint Paul. J'ai été crucifié avec Christ. Je suis crucifié pour le monde. Et le monde, lui aussi, est crucifié pour moi. Il y a une vraie libération. Mais malgré tout, nous ne sommes pas encore délivrés de la puissance du péché, de la présence du péché. Et c'est cela qui est terrible, parce que tous les jours, dès notre réveil, qu'entendons-nous ou que voyons-nous? Eh bien, dans ce monde, nous voyons le péché qui s'étale. Péché qu'on n'appelle plus péché. On ne sait plus faire de différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. À force de mélanger le noir et le blanc, comme je le dis quelquefois, qu'est-ce que ça donne? Du gris. Et on ne voit plus que gris. On ne sait plus dire ce qui est bien, ce qui est mal. On ne sait plus. Et puis notre conscience s'endurcit de plus en plus. Jusqu'au terrible réveil, car tôt ou tard, il vient. Et combien mon cœur serait brisé si je devais penser qu'il y a ici une âme encore et qui va se réveiller au bord de l'abîme alors qu'il sera trop tard, éternellement trop tard, parce qu'elle a refusé et d'écouter. C'est la parole du Seigneur qui l'appelait à la repentance. Mes amis, je ne sais pas ce que vous pensez de cette troisième parabole, mais je me souviens que Charles Péguy, ce grand Français qui est mort en 1914 sur le champ de bataille, quelque temps avant la grande bataille de la Marne dans la Seconde Guerre, Charles Péguy, dans le porche de la deuxième vertu, avait écrit ceci, parlant de la parabole de l'enfant prodigue. Rien que d'y penser, un sanglot vous monte à la gorge. C'est la parole de Jésus qui a eu le plus grand retentissement dans le monde, qui a trouvé la résonance la plus profonde dans le monde et dans l'homme, au cœur fidèle, au cœur infidèle. Même les incroyants connaissent cette histoire de l'enfant prodigue et la trouvent admirable. Mais il n'est pas question de trouver admirable cette parabole ce matin. Il est question de laisser ces vérités pénétrer notre cœur. Et nous avons vu dans notre première soirée les circonstances et qui ont poussé Jésus à s'adresser ainsi à ses auditeurs, qui étaient partagés en deux classes. Je le répète, il y avait les péagers, appelés aussi les publicains, les gens de mauvaise vie, ayant besoin de salut, de paix, de pardon et d'amour. Ils venaient pour écouter Jésus en espérant trouver dans ses paroles une véritable délivrance. Puis, il y avait les pharisiens, qu'on appelait aussi les séparés, ces gens religieux et qui pensaient avoir la doctrine la plus pure et qui se croyaient justes et qui estimaient qu'il n'était pas permis de fréquenter cette société de gens pécheurs, fût-ce même pour les amener à la repentance. Il fallait être séparé. Il fallait pas même toucher leur habit. On se souillait rien qu'en touchant leur habit. Alors, comprenez-vous, il ne fallait pas entrer dans leur maison, ni s'asseoir à leur table. Et cette attitude de ces gens et ce jugement que l'on portait sur Jésus, qui a permis à Jésus de donner cet enseignement en parlant au cœur et à la conscience de ses propres justes, de ses pharisiens. Alors nous avons vu d'abord la brebis perdue et l'amour du berger pour une seule de ses brebis, une brebis, un être destitué de raison. C'est la première parabole. Cette brebis qui était perdue pour Dieu, parce que elle ne pouvait pas servir à ce que Dieu voulait pour elle, au plan de Dieu. Elle était perdue pour le troupeau. Elle n'avait plus de communion avec le troupeau. Et enfin, elle était perdue pour elle-même. Celui qui n'est pas à Jésus est un perdu. Il ne sait où il est. Il est en danger, comme la brebis peut être dévorée. Il manque des soins du bon berger et il ne peut pas retrouver lui-même la maison. Mais nous avons vu que toute l'action pour retrouver la brebis perdue ne venait pas de la brebis, mais venait du berger. Puis, Jésus nous a donné une seconde parabole, la drachme perdue, cette pièce d'argent inanimée et qui nous a montré hier soir, et j'espère que vous l'avez compris, que le chrétien sauvé, mais qui est laissé à lui-même, est aussi perdu qu'une brebis égarée. Dans la maison, une pièce d'argent perdue est parfaitement inutile et ne sert à rien. Il faut qu'elle soit retrouvée. Et que cette pièce se trouve dans une main qui peut l'utiliser, l'employer. Et nous aurions pu aussi continuer de vous donner d'autres pistes de réflexion sur cette drachme qui a tant de valeur. Car l'apôtre Jacques, ou celui qui a écrit l'épître de Jacques, qui est appelé aussi le frère du Seigneur, nous dit que si nous manquons sur un seul commandement, nous manquons sur les 10, surtout. Hein. Alors, vous comprenez l'histoire aussi des 10 drachmes. Le manquement, si vous péchez sur un seul des commandements du Seigneur, c'est comme si vous aviez péché sur tous. Et il y a 10 commandements. De sorte que Il est question que toute la loi soit accomplie en nous. Mais nous ne pouvons pas nous-mêmes. Qui est celui qui peut dire qu'il a observé tous les commandements? Quand je me place devant les commandements de Moïse, je réalise déjà que s'il faut avoir fait cela pour être sauvé, je suis perdu. Faites ces choses et vous vivrez. C'est impossible. C'est impossible pour moi. Alors, que me faut-il? Il me faut un sauveur. Le rôle de la loi, c'est de me convaincre de péché et c'est de m'amener à reconnaître ma faiblesse, mon incapacité, mon impuissance à me sauver par moi-même et à me faire soupirer après quelqu'un qui pourrait me délivrer. Qui me délivrera de ce corps de mort? Qui me délivrera? Et la réponse, nous l'avons tout de suite dans le chapitre 7 des Romains à la fin. Jésus nous est présenté. Et c'est lui qui nous prend en charge. Et qui nous donne son esprit. Et désormais, ce n'est plus nous-mêmes qui nous efforçons de faire le bien, mais c'est lui-même qui réalise la vie que Dieu désirait pour nous. Cette vie que Jésus a eue sur la terre, il l'a vécue pour nous, pour qu'elle soit réellement la nôtre. Pour que réellement sa vie devienne la nôtre. Et quand on accepte Jésus, il prend notre vie d'impuissance, notre vie de péché, il la prend avec lui à la croix et dans sa mort, et dans sa résurrection, il nous identifie à lui et il nous entraîne dans sa vie de puissance. Et c'est lui-même qui nous fait vivre de sa vie. C'est sa vie en nous, c'est plus notre vie, ce n'est plus un effort pénible, c'est un débordement. C'est sa vie en nous qui va se manifester une vie vraiment d'amour. Enfin, j'arrive à ma parabole. La troisième, nous avons l'histoire d'un jeune homme où l'on voit ce qui se passe dans un cœur, lorsqu'il se convertit au Seigneur, et nous voyons ce que c'est que vraiment la repentance. Nous n'allons faire que survoler cette parabole, parce qu'elle est trop connue pour que j'insiste beaucoup. Mais cette parabole du Fils perdu, oh, qu'elle puisse atteindre votre conscience et votre cœur. Nous avons tout d'abord devant nos yeux un père. Et j'aimerais que vous puissiez penser à ce père. Ce père agriculteur qui avait donc un domaine et qui avait deux fils qui n'avaient pas encore atteint l'âge de la majorité. Et puis, ce père était bon. On le voit de plusieurs manières. Il était juste. Il avait des serviteurs. Il avait des mercenaires, c'est-à-dire des gens qui étaient à son service et qu'il payait bien et qu'il nourrissait bien. Et les fils savaient que leur père était un exemple dans ses relations avec ses employés. Il n'y avait pas besoin d'un syndicat pour indiquer au père ses responsabilités. Ce père avait pris ses responsabilités et il traitait ses serviteurs avec humanité. Ils étaient bien nourris et aucun de ses serviteurs n'était contre lui. C'était un bon père, mais aussi un bon maître. Ses fils le savaient. Et pourtant, malgré qu'ils avaient tout en abondance, puisque les serviteurs avaient tout en abondance, on peut bien penser que les fils étaient encore mieux traités que les serviteurs. Bien malgré qu'ils avaient tout en abondance, l'un de ses fils, en tout cas dans ce moment-là, n'était pas satisfait. Et qu'avait-il dans ses pensées? Car tout se trouve dans notre pensée. Ce qui nous conduit au mal, c'est la pensée qui nous habite. Et que pensait-il? Eh bien, il se disait, il me manque quelque chose dans cette maison où tout se fait d'une façon propre, d'une façon régulière. Je ne me sens pas libre. Moi, je voudrais connaître autre chose que cette vie sous la direction de notre Père. Et puis au fond, tout ce patrimoine, tout ce bien, eh bien, ça ne sera pas toujours à mon père. Cela va nous revenir, à nous les enfants. Évidemment, le fils aîné a le droit d'aînesse et aura lui plus que moi. Mais enfin, je pourrais bien au fond avoir ma part et en jouir tout de suite et en jouir maintenant. Mais attendre jusqu'à ce que le père soit mort. Figurez-vous, eh bien, quand le père sera mort, moi, il me restera peut-être pas tellement d'années pour jouir de ce capital. Je voudrais jouir aujourd'hui. Je voudrais jouir maintenant. Alors, il s'approche de son père et il lui dit, « Père, donne-moi le bien qui doit m'appartenir, qui doit me revenir. » Et ce père est tellement bon. Qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Tu n'y penses pas? Je ne suis pas encore mort. Et tu n'es pas prêt de m'enterrer. Qui te dit que moi je ne t'enterrerai pas? C'est ce que le père aurait pu dire à son fils. Et puis il aurait pu le boucler. Pas du tout. Ah? Tu veux ton bien maintenant? Eh bien, je vais faire le nécessaire. Il est tellement bon. Il ne le violente pas. Et il leur partagea son bien. Et il donne sa part au plus jeune. Alors, que va faire le plus jeune? Bien, vous savez, une fois qu'il a son bien, il ne va pas rester à la maison. Non, non. Il veut jouir loin des yeux de son père. Son père est vraiment un gêneur. Il était déjà pour lui un gêneur parce qu'il vivait trop longtemps. Et au fond, mentalement, hein? Mentalement, qu'est-ce qu'il faisait le fils? En réclamant la part de l'héritage, il tuait son père. Il disait, enfin, tu n'es pas encore mort. Viens. Parce que l'héritage, on l'a une fois que le père est mort. Donc, mentalement, le fils avait des idées d'assassin. C'est vrai ou c'est faux? Vous voulez l'héritage? L'héritage, vous savez bien qu'on l'a qu'une fois la mort de ses parents. Alors, au fond, il allait tuer Dieu. Pas besoin d'aller jusqu'à Nietzsche, d'attendre Nietzsche qui disait au siècle dernier, nous avons tué Dieu. Jésus lui-même a montré dans cette parabole que l'homme, s'il le pouvait, tuait le Père. Pour être libre.
Bien, oui.
Une fois qu'on a tué le Père, comme il est quand même encore là, eh bien, il faut s'en aller, loin de ses regards. Et c'est bien ce qu'a fait Caïn. Après avoir tué son propre frère, il s'éloigna de la présence de Dieu. Il s'éloigne de celui qui a encore voulu lui parler avec bonté, et qu'il n'a pas condamné à mort parce qu'il avait tué son frère. Dieu n'a pas condamné à mort Caïn. Il l'a laissé vivre, et malgré cela, Caïn s'est éloigné de son Dieu. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné. Ah, ce pays éloigné, ce pays étranger, vous avez reconnu ce que c'est le monde. Le monde qui vous tend. Vous dites, oh,
dans cette maison paternelle, dans cette maison où on nous a élevés dans certains principes, nous ne sommes pas libres. On nous a conditionnés. On a fait un tas de tabous, d'une multitude de choses qui sont pourtant naturelles. Et moi, je veux satisfaire mes besoins naturels. Je veux satisfaire tous mes appétits. Et pour pouvoir le faire, eh bien, il me faut de l'argent. Nous le savons bien. Eh bien, j'en ai eu, puisque mon père a cédé. Mais maintenant, je vais jouir avec cet argent. Mais où est-ce que je jouirai? Dans le monde. Parce que le monde vous offre tout ce qui plaît à vos convoitises intérieures. Et forcément, aujourd'hui encore, quand vous êtes des heures et des heures devant la télévision, vous avez vos yeux fixés sur vos idoles, fixés sur ce qui vous fait tomber dans le péché. Alors ne venez pas me parler des difficultés que vous avez à triompher du mal. Vous mettez sous vos yeux, comme le dit Ézéchiel au chapitre 14, ce qui vous fait tomber dans le péché. Alors vous êtes déjà habité par le péché, même une fois converti. Ce sont ces choses-là qui vous plaisent, parce que Satan, le prince de ce monde, vous savez, n'a pas des cornes, il n'a pas les pieds fourchus, il n'a pas une petite queue, et puis il n'a pas une fourche. Satan, il a, comme je le dis quelquefois, le visage que le monde est. Il est très beau. Il est sympathique. Éminemment sympathique. Et il vous dit, bien, tu verras tout ce que tu pourras faire avec moi, tout ce que je te donnerai pour te satisfaire. Mais non, Dieu aurait-il dit, non, non, il n'a pas dit cela. Et Dieu, vois-tu, il est tellement bon, il ne tiendra pas compte de tout cela. Vis, vis ta vie, vis ta vie. Et voilà. Les convoitises de la chair, la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, briller dans ce monde. Mais cela coûte peut-être de l'argent. Qu'importe. Qu'importe. Il en a beaucoup, mais vous savez, le monde ne vous donne rien, et Jésus l'a dit, moi je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde vous offre, puis ensuite il vous prend. Il vous possède, et il vous presse comme un citron, et quand il ne peut plus rien tirer de vous, qu'est-ce qu'il fait? Il vous rejette. Voulez-vous faire cette expérience du Fils prodigue? Tout dépenser pour n'avoir finalement plus rien? Oh, mais vous vous dites, j'ai dépensé avec des amis. Et maintenant, ce sont mes amis qui prendront soin de moi, qui dépenseront pour moi. C'est pas vrai. Quand vous aurez tout dépensé, quand vos propres amis, vos compagnies, ces compagnies qui corrompent les bonnes mœurs, quand vos compagnons verront qu'ils ne peuvent plus rien tirer de vous, ils vous laisseront tomber, comme on dit en France, comme une vieille chaussette. Oui, ils vous laisseront tomber. Ils ne s'occuperont pas de vous. Mes amis, croyez-le, c'est pas nécessaire de refaire l'expérience de l'enfant. Et quand il voit les cœurs de ces gens du monde, de ses amis, se fermer pour lui, quand il se voit ainsi délaissé, après avoir vécu dans la débauche, eh bien, qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? Qu'il ne faisait pas même dans la maison paternelle, il faut qu'il se mette au travail. Parce qu'il était fils à papa avant. Et maintenant, il faut qu'il travaille. Et où trouver du travail? Oh, mais il est fils d'une bonne famille. Il espère qu'on va lui donner une gérance quelconque. Mais il n'a pas de métier, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on lui dit? C'est juste bon pour garder les cochons. Et vous savez, dites-vous bien que Jésus savait ce qu'il disait. C'était d'un juif qu'il parlait. Et les pourceaux étaient une abomination pour les Juifs, de sorte que c'était une tâche abominable qui lui était proposée par l'étranger. Va dans les champs, garder mes cochons, garder mes pourceaux. Mais quand on a faim, il faut bien faire quelque chose, surtout que subitement une grande famine survient dans ce pays-là. Et c'est très bizarre de voir comme tout coïncide. C'est au moment où il n'a plus d'argent, où son pécule est dépensé, que les circonstances deviennent difficiles pour lui. Il n'avait pas pensé, en quittant la maison paternelle, en quittant son pays, qu'il y aurait une famine dans le pays où il allait gaspiller son bien. Et puis justement, la famine est là. Alors, il va dans les champs garder les pourceaux. Et c'est cela qui est tellement merveilleux. Dieu est tellement doux, tellement tendre. Vous avez résisté au bon berger qui voulait vous sauver gratuitement. Vous avez résisté depuis longtemps aux appels si doux du Seigneur. Alors, ne vous plaignez pas si Dieu doit parler un peu plus fort. Mais s'il doit parler un peu plus fort, s'il vous envoie certaines épreuves, ce n'est pas parce qu'il ne vous aime pas, ce n'est pas parce qu'il est contre vous. C'est parce qu'il voudrait réveiller votre conscience. Il voudrait vous ramener d'une manière ou d'une autre dans la maison paternelle. Il ne prend pas plaisir à la mort d'un pécheur, mais il voudrait sa conversion et sa vie. Il voudrait un changement de pensée. Et ce changement de pensée va commencer chez le fils perdu quand il est dans les champs. Avec les pourceaux, il ne peut pas même se nourrir de ce que les pourceaux mangeaient. Personne ne lui donnait rien. Alors, il y a ce travail de Dieu dans son cœur. Étant rentré en lui-même, qu'est-ce que ça veut dire? Il était sorti loin de la maison. Être sorti de soi-même, c'était fou. Il était devenu fou. Les fous ne sont pas où vous le croyez. C'est vous, en allant dans le monde, en pensant que le monde va pouvoir vous satisfaire, en pensant que le monde va vous combler, c'est vous qui êtes hors de vous-même. Et pour retrouver le bonheur, ce bonheur même que vous n'avez jamais connu, il faut rentrer en soi-même. Et c'est en rentrant en lui-même, tout au fond de son cœur, qu'il redécouvre son père. Son père, il l'a redécouvert, non pas au moment où il est rentré dans la maison, mais au moment où il est rentré en lui-même et où il a commencé à réfléchir à la maison de son père. Il pense tout à coup, mais combien de mercenaires de mon père, d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance et moi ici, je péris de faim. Mais ça ne suffit pas de penser quelque chose de juste en soi. Une pensée doit devenir une action. Et il prend une décision qui va peut-être lui coûter beaucoup. Il dit, je retournerai vers mon père. Mais c'est humiliant. Ah, si tu ne veux pas t'humilier, tu ne peux pas retrouver le chemin de la maison du père. J'irai vers mon père et je lui dirai, père, j'ai péché. Ah, c'est là le grand mot. J'ai péché. Nous pourrions faire toute une étude sur cette expression au travers de toute la Bible. J'ai péché. Quand des hommes ont pu dire à un certain moment, j'ai péché, alors Dieu est intervenu. Mais il ne faut pas dire simplement j'ai péché d'une façon facile. J'ai péché, comme le dit Saül à Samuel, j'ai péché, mais honore-moi devant le peuple, que personne ne sache ce que j'ai fait. Alors Saül mourra dans son péché, n'est-ce pas? Tandis que David, lui qui a fait une faute très grave, l'adultère avec Bathsheba, et au fond le crime d'Uri, quand Nathan, un autre prophète, lui parle, lui aussi dit, j'ai péché. Mais en même temps, il écrit un psaume où il confesse son péché. Vous le connaissez, ce psaume? C'est lequel? 51, qu'on appelle le Miserere, hein? C'est ce psaume-là qu'il écrit. Et tous ses compatriotes, le temps, ses sujets, connaîtront la faute de David. Il confesse son péché. Alors il est restauré. Il ne suffit pas de dire « j'ai péché ». C'est pourquoi, mes amis, je voudrais vous supplier, soyez sérieux. Je ne viendrai pas avec une petite carte pour vous dire aujourd'hui « coche ici, est-ce qu'il y a un pécheur ?» Oh oui, j'ai péché. Tu coches. Ah, c'est fait, j'ai péché, j'ai reconnu que j'étais pécheur. C'est pas cela. C'est pas cela qui te donnera le salut. C'est de laisser l'Esprit Saint te convaincre peut-être dans ta chambre, non pas dans une atmosphère religieuse où l'on chante de beaux cantiques qui t'impressionnent et qui t'émeuvent. Alors oui, j'ai péché, c'est un pécheur. Ah. Et je pleure. Non, ça ne veut rien dire. J'ai péché, ce n'est pas une formule. J'ai péché. C'est la conviction du Saint-Esprit et qui t'est donnée. Et j'ai péché contre qui? Contre Dieu d'abord. Comme Joseph, dans la tentation, il dit à la femme de Potiphar, comment pécherais-je et ferais-je un si grand mal contre Dieu? C'est pas contre Potiphar d'abord, c'est contre Dieu. Comment pécherais-je et ferais-je un si grand mal contre Dieu? Non, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et voilà, il a cette pensée dans son cœur. Ça s'est pas fait dans une réunion d'évangélisation. Ça s'est fait au milieu des pourceaux. Hein? C'est ça. Est-ce que vous croyez encore que Dieu peut toucher un cœur au milieu d'une porcherie? Ou au milieu d'un troupeau de pourceaux? Pas de belles âmes qui chantent des cantiques, mais des grognements de cochons. Hein? Mais au milieu des grognements de cochons, le Saint-Esprit peut vous parler. Voilà une conversion. On lui a pas fait de beaux regards, de beaux sourires, un tendre accueil. C'était les pourceaux. Hein? Et voilà, la décision est prise. La décision est assez forte, et notre gars s'en va. Il ne peut pas s'acheter des vêtements. Il ne pense plus même à ses vêtements. Il n'a plus que cette idée, retrouver mon père. Et il fait le chemin. Et alors, cette chose extraordinaire, vous savez, oui, c'est vrai, on ne peut pas arriver à la fin de cette parabole sans pleurer. Mais pas parce qu'on s'est frotté les yeux avec des oignons. Mais réellement, quand on pense à cela, le père, pour qu'il l'ait vu venir de loin, qu'est-ce qu'il devait faire? Comme le dit quelqu'un, il montait chaque jour sur sa tour, et il regardait du côté où le fils perdu pourrait revenir. Il l'attendait tous les jours, et vous, mes frères et sœurs, qui avez peut-être un fils, pour qui vous priez, ou une fille, qui s'est éloignée, oh, gardez tout votre amour pour ce perdu. Pensez qu'il a une valeur infinie au cœur de Dieu, et continuez de monter sur votre tour comme le Père qui regardait. Si son fils ne reviendrait pas, et quand il a vu ce vagabond, qui ne ressemblait extérieurement pas du tout au fils qu'il avait vu partir, bien fringué, mais qui revenait en haillons, il l'a reconnu. Son cœur a discerné que c'était bien l'enfant de sa chair, l'os de ses os, et il s'est précipité. Ah, pas de protocole, hein. Il s'en va, il dit pas à ses serviteurs, allez voir si ce gars, si c'est un mendiant ou qui il est. Non, il va lui-même. Et puis, quand il le voit, il ne permet pas même à son enfant d'ouvrir la bouche. Il le prend dans ses bras. Il le serre sur son cœur. Il le couvre de baisers. L'enfant ne l'embrasse pas. L'enfant se sent indigne, il est là, dans ses bras, et le père a une joie immense, et le fils voit sur le visage du père, c'est de joie, aucun reproche de la part du père. Je me souviendrai toujours d'avoir parlé sur cette parabole au milieu de jeunes détenus, incarcérés dans une prison de Suisse. J'avais à peine 20 ans quand je leur parlais de cela. Et ils étaient 16 dans la salle, et sur les 16, il y en a 12 qui pleuraient. Et c'était des gars durs qui ne voulaient rien entendre. Et on a fondé après un groupe biblique dans cette prison. J'ai pu leur apporter une Bible. Et ces jeunes disaient, revenez, mais non pas seulement pour nous parler une heure, mais pour rester tout un après-midi avec nous. Ah, ces cœurs égarés, quand on leur parle de l'amour de Dieu, comme on doit en parler, les plus durs, les plus mauvais, cèdent devant tant de bonté et de miséricorde. Et je vous le demande, vous-même, savez-vous ce que c'est que le baiser de la réconciliation? Le baiser du pardon. Ce baiser qu'on peut étudier dans la parole. Le premier baiser, est-ce que vous l'avez reçu de la part de votre Père des cieux? Le baiser du pardon, de la réconciliation. Après viendront les baisers de la communion, puis les baisers de la soumission. Le baiser au pied, c'est le baiser de la soumission. Baiser le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, psaume 2. Baiser de la communion, qu'il me baise des baisers de sa bouche. Tes amours sont meilleurs que le vin. Et puis on pourrait parler d'autres baisers. Mais les connaissez-vous, ces baisers? Baiser de la réconciliation. Et ensuite, baiser de la soumission. Ce sauveur devient mon Seigneur. Je me soumets à lui. C'est lui qui va désormais diriger ma vie. Puis ensuite, c'est le baiser de la communion. Après le baiser de la soumission, le baiser de la communion. Où l'on connaît l'amour de Jésus. Où il devient non pas seulement notre sauveur et notre Seigneur, mais notre bien-aimé. Et où l'on grandit dans son amour. Et le Fils, maintenant, ayant reçu un tel accueil, il veut quand même dire à son Père son regret. Et il dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être parle à ses serviteurs. Approchez vite. Donnez-lui la plus belle robe. Mettez un anneau à son doigt. Il y aurait 1000 choses à vous dire sur tous ces symboles. Revêtu de la robe de la justice, ayant de nouveau le pouvoir de mettre son sceau sur les affaires de son père, car l'anneau au doigt, c'est le sceau du Fils. Et qui a retrouvé une autorité dans la maison et puis des sandales, il pourra servir à nouveau des sandales à ses pieds parce que comment est-ce qu'il servait? Pieds nus. Les serviteurs n'avaient pas de chaussures, mais le Fils a maintenant des chaussures. Et puis non seulement ça, mais tu es le veau gras. Réjouissons-nous, faisons bonne chère. Mon fils que voici était mort, mais il est revenu à la vie. Vous avez déjà pensé que le père aurait pu mourir pendant l'absence du fils? Le fils avait tué mentalement le père, mais le père aurait pu mourir pendant son absence. Et qu'est-ce que le fils apprend quand il arrive à la maison? Qu'est-ce qui était mort? C'était lui. Quand il était dans le monde, il était mort dans ses fautes, dans ses péchés. Puis maintenant, il est revenu à la vie. Mais le Père est toujours vivant, le Père éternel. Il ne peut pas mourir. Alors, on doit se réjouir. Vous avez vu que dans les 3 paraboles, la joie est toujours du même côté. De quel côté? Du côté de Dieu. Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, plus de joie pour un que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y a de la joie dans le cœur de la femme parce qu'elle a retrouvé la pièce perdue. Et puis, il y a de la joie dans le cœur du Père. C'est toute la joie du Père de retrouver son Fils, de retrouver sa créature, de replacer son Fils à sa place dans la maison. Mais alors, qu'est-ce qu'on apprend? Et c'est là que nous avons la conclusion. À qui Jésus s'adressait-il? À des publicains, des gens de mauvaise vie, et puis en même temps, à des pharisiens, à des gens observateurs de la loi, qui disaient, nous, nous sommes justes, nous n'avons jamais péché. Alors le fils aîné, que représente-t-il? Le fils aîné qui n'a pas quitté la maison. Le fils aîné, est-ce qu'il connaît mieux son père que le fils prodigue? Que pensez-vous? Écoutez-le. Le fils aîné revient des champs, c'est donc un travailleur. Mais lorsqu'il entend cette musique et ces danses, et qu'il demande ce que c'était, à la réponse du serviteur qui lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Alors, c'est la colère. Ah, les pharisiens peuvent bien se reconnaître. Ils étaient en colère parce que Jésus accueillait les pécheurs, parce que Jésus mangeait avec eux. Et maintenant, ils peuvent se reconnaître, oui. Quand Jésus dit, il s'est mis en colère. Et puis, il ne voulut pas entrer. Les pharisiens se tenaient près de la porte, mais ne voulaient pas entrer. Comme Jésus disait, ils empêchent même ceux qui voudraient entrer. Ils obstruent le chemin. Il ne veut pas entrer. Alors, que fait le Père? Il sort, lui, pour parler à son fils. Jésus aimait aussi les pharisiens. Jésus aimait aussi ces gens qui se croyaient justes parce qu'ils étaient des observateurs scrupuleux de la loi. Jésus voulait aussi les sauver. Jésus aurait voulu aussi qu'ils aient de la joie. Il le prie d'entrer, mais il répond à son père, « Voici tant d'années que je te sers. » Est-ce qu'il y aurait parmi vous des chrétiens qui peuvent dire ça maintenant? Vous savez, je sers le Seigneur depuis tant d'années. Je suis au service du Seigneur. Un jour, mon ami, Monsieur Racine vous parlera, c'était l'année passée, c'était dans l'Abitibi, il y a 50 ans qu'il connaît le Seigneur, misère. Hein, toujours mettre ça en avant, oui. Il y a 45 ans et plus qu'il sert le Seigneur. Bon, toujours mettre ça, notre ministère en avant. C'est pas de cela que les gens ont besoin. Parce que si il m'a fait la grâce de le connaître en 1931, la grâce dont je jouis le plus, c'est de le connaître aujourd'hui. C'est vrai ou c'est faux? C'est de le connaître aujourd'hui. Et d'être encore à son école aujourd'hui. D'avoir tout besoin d'apprendre aujourd'hui. Et de réapprendre toutes choses. Et de revivre pour moi-même cette parabole de l'enfant perdu. Qui revient, qui trouve dans le cœur du Père des sentiments qui n'ont pas changé. Le Père ne lui rappelle pas ce qu'il a fait. Il n'insiste pas sur sa vie de débauche, tandis que le fils est né. Alors il déshabille son frère, et puis il ne l'appelle plus même son frère. Il dit ton fils, n'est-ce pas, qui a mangé ton bien avec quoi? Avec les prostituées, ils donnent des détails. Parce que les gens religieux, ils n'ont pas des meilleures pensées que les autres, croyez-le bien. C'est tout en eux. Et puis quand ça sort de leurs lèvres, on voit bien aussi ce qu'ils pensent. C'est pour ça qu'Ésaïe a compris qu'il avait des lèvres impures. Qu'il avait des lèvres impures. Mais nous, on aime à rappeler les péchés, à détailler les péchés, à faire même un dessin pour que vous puissiez mieux comprendre. C'est pas l'évangile, ça. Et puis, que lui dit-il? Eh bien, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour manger avec mes amis. Au fond, il était près de son père, tout près de son père, à la maison, mais il ne connaissait pas l'amour de son père. Il était aussi éloigné de son père que le fils perdu. Parce qu'il était dans la maison, mais il ne connaissait pas l'amour du Père. C'est pourquoi, mes amis, vous qui vous dites convertis, qui vous dites sauvés, je vous pose cette question et je me la pose à nouveau à moi-même. Est-ce que je jouis de la présence de mon Dieu? Est-ce que je jouis aujourd'hui de la présence de mon Père? Est-ce que je peux me réjouir aussi avec mes amis dans la maison paternelle? Le Père lui dit, mon enfant, oh que c'est beau, il l'appelle aussi son enfant. Il est aussi son enfant que le Fils prodigue, mon enfant. Mais tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Est-ce que vous connaissez ces richesses? Vous qui restez, vous qui n'êtes pas tombés dans des péchés grossiers, vous qui n'avez pas une histoire sale à raconter. Il semble maintenant que ceux qui rendent témoignage à Jésus, qui ont le meilleur témoignage, il semble que c'est ceux qui en ont fait le plus. Et qui nous font un témoignage style, comme le disait un de mes amis en France, docteur en théologie, témoignage qu'il faut sa purin, vous savez ce que ça veut dire? Un témoignage puant, parce qu'il nous donne tous les détails de ce qui a été sordide dans leur vie, puis ils étalent tout ça, ça pue. Ils ont tellement vécu là-dedans, qu'alors ils vous sortent tout ça. Puis après voilà, maintenant j'ai trouvé le Seigneur. Vous voyez comme je suis beau. Un an. Il y a encore des odeurs. Alors, chers amis, ne vous étalez pas sur vos péchés. Dites-les au Seigneur dans votre cabinet, devant lui, et puis donnez toute gloire au Seigneur. Donnez toute gloire au Seigneur. Vous êtes sauvés? Alors vivez dans la joie de la maison du Père, et que pour vous, lorsqu'une âme vient à la vie nouvelle, que vous puissiez vous aussi être réjouis en vous disant, il était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. Alors vous serez en communion avec votre Père des cieux. Amen. Nous l'en prier. S'il y a parmi vous quelqu'un qui voudrait exprimer à Dieu en quelques mots ce qu'il éprouve, ce qu'il ressent, sentez-vous libre de le faire. Nous sommes simplement en sa présence. Voyez-vous, mes bien-aimés, est-ce que quelqu'un parmi vous s'est laissé sauver par le bon berger? S'est laissé placer sur ses propres épaules? Maintenant, on connaît la force des épaules de notre Seigneur. Il nous porte. Est-ce que quelqu'un parmi vous, hier soir peut-être, s'est laissé trouver comme la pièce à la lumière du Saint-Esprit qui éclairait les ténèbres de cette maison, tout à coup la pièce a brillé. Et la sagesse divine a recueilli cette pièce qui portait son sceau, l'image du Créateur. Et maintenant vous êtes dans la main du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui va vous conduire et qui va tout produire en vous. Ce n'est pas vous qui pouviez produire, mais c'est le Saint-Esprit en vous, qui vous donne une valeur pour travailler dans ce monde. Connaissez-vous les épaules du Seigneur, du bon berger? Connaissez-vous la main de ce Père au cœur de mère? Êtes-vous dans sa main? Elle vous faut plus.
il vous faut ce matin accepter d'être dans ses bras. Le Fils perdu a connu la divine étreinte. Le Père l'a pris dans ses bras. Amour du Fils, amour du Saint-Esprit, amour du Père éternel. Les bras du Père. Je vous invite, dans les jours qui viennent, à ouvrir vos Bibles au chapitre 13 des Corinthiens, à reprendre cette parabole de l'enfant prodigue, et à examiner ce qu'il est dit de ce qu'est le véritable amour. L'amour qui croit tout, qui espère tout, qui endure tout, qui périt jamais, c'est l'amour de qui? C'est l'amour du Père. Puis ensuite, en voyant ce que l'amour ne fait pas, vous apprendrez ce qui était dans le cœur du Fils aîné. Il a agi avec inconvenance. Il a été déshonnête. Il a mis à découvert le péché de son frère. C'est ainsi que vous aurez le commentaire le plus profond et le plus vivant de la parabole de l'enfant prodigue. L'image du Fils aîné dans ce que l'amour ne fait pas. L'image du Père dans ce que l'amour accomplit. Et puis, l'image du Fils repentant. Et qui accepte et qui comprend qu'il a passé par ces trois stages. La foi, quand il était éloigné, il a cru. L'espérance, il a espéré. Et il a connu finalement l'amour. C'est la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Un jour, la foi est changée en vue, l'espérance en réalité, mais l'amour est resté éternel. Dieu notre Père, nous ne savons pas ce qui se passe dans les cœurs. Ce n'est pas à nous de le savoir. Ce qui compte, c'est que toi, tu le saches. Et que dans les jours qui viennent, des lèvres purifiées confessent ton beau nom. Et confessent ton nom sans que, par leur témoignage, ce nom soit déshonoré dans la suite. Nous avons soif de vraie conversion, d'une repentance qui n'est pas de la comédie, mais d'une repentance véritable. Cette repentance qu'ont prêché tes saints prophètes, cette repentance qui était sur les lèvres de Jean-Baptiste, cette repentance qui était sur tes propres lèvres, ô Jésus, quand tu disais au début de ton ministère, « Repentez-vous ». Croyez à l'Évangile. Cette repentance te ressuscitée, tu as donné à prêcher à tes apôtres, en leur disant, vous serez mes témoins. Apportez la parole dans tout le monde, prêchant la repentance. Cette repentance que l'apôtre Paul annonçait aux Juifs et aux païens. Cette repentance que le Christ glorifié demande aux églises de l'Apocalypse. Repends-toi, repends-toi, repends-toi. Oh, que tu nous fasses comprendre par cette parabole de l'enfant prodigue tout ce travail qui se fait dans un cœur, qui laisse l'esprit le sonder, et qu'ainsi, de cette fin de semaine, il y ait un fruit durable. Et que dans les communautés que nous rejoindrons, quelles qu'elles soient, le monde qui nous connaissait ou qui nous entourait s'aperçoive de ce changement intérieur. Non pas parce que nous avons de nouveaux versets en mémoire que nous pouvons citer,
mais parce que nous avons une vie transformée. Et qu'ainsi plusieurs soient amenés à nous demander la raison de l'espérance qui est en nous, et qu'avec douceur et crainte, nous puissions répondre que c'est Jésus qui nous l'a donné, qui est notre Sauveur, qui est notre Seigneur, notre bien-aimé, que nous attendons. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, au siècle des siècles. Amen.